Salut. Soyez les bienvenus avec Leïla Gadeau, vous l'avez dit.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Oui.
Pierre Moguiz.
Bonjour.
Pierre Asturo sera là tout à l'heure.
Salut.
Et nos invités, oh. Benoît Delépine et Gustave Carvel. Oh. Merci, messieurs.
Merci à vous.
Merci surtout, d'être là et surtout bravo pour I Feel Good, ce film qui sort aujourd'hui.
En ce moment. Avec voilà. Il est en train de sortir, en plein accouchement.
Là, ouais, voilà. Voilà. On dit accoucher un film ou bah oui, on parle de vélage, on parle de quoi?
Non, ça c'était hier.
Accoucher d'un film.
Écoutez, hier, ouais. Non, c'est un beau vélage en tout cas.
Ouais, absolument. Et c'est un beau film. I Feel Good, il porte bien son titre d'ailleurs. On va en parler de ce film qui, si je peux me permettre, est vraiment dans la lignée de ce que de votre cinéma, puisque vous avez une véritable patte depuis que vous faites ces longs métrages, mais vous avez passé une espèce de vitesse supérieure. Vous allez me dire où elle se trouve ou pas cette vitesse supérieure. Et d'abord, si vous êtes d'accord avec ça, ce qui est pour vu la tête de Benoît, c'est pas le cas. Commençons par des questions pour voir si tout le monde vous connaît bien autour de cette table. Allez. À propos de l'émission Groland, qu'est-ce que la fameuse malédiction égyptienne?
C'est toi. Il y en a deux alors.
Moi, je suis la malédiction égyptienne ici, mais eux, ils en ont une à eux.
C'est quoi les pieds? Les pieds égyptiens?
C'est quelqu'un?
Ne sois pas désagréable.
Tu es de profil. Tu es de profil.
Non.
La malédiction égyptienne.
C'est quelqu'un?
C'est quoi? C'est les sept plaies d'Égypte. Il y a un truc sur le plateau qui se passe. C'est une cata à chaque fois.
Ils n'ont pas le droit de dire. C'est pas une personne. C'est une situation.
Qui
peut aller à n'importe quelle émission de télévision ou de radio.
Des gens qui marchent de travers.
Non.
ça arrive.
C'est dû à notre longévité. C'est un peu la malédiction des parents.
Exactement.
Quand tu invites des vieux, ils ont l'air momifiés.
Alors, non,
c'est la druckerite.
Pensez à la durée d'existence de Groland.
Oui, ça fait 20, 25 ans.
Voilà. Donc, quelle est la malédiction égyptienne?
C'est les seuls qui sont là depuis le début.
Alors c'est pas loin,
ils sont plus là.
Et ils vont crever.
Et ils voient les autres partir.
Ils restent malgré tout.
Ouais, alors ça.
Ils voient défiler les autres.
Mais
les jeunes partent, les jeunes disparaissent.
Mais qui part?
La concurrence,
ceux qui sont trop payés.
Trop tard.
La direction?
Bah voilà. C'est-à-dire que dès que quelqu'un veut vous virer, l'émission reste et c'est lui qui est viré.
Il est en train de nous virer, puis il y a une petite main derrière qui lui tape sur l'épaule.
Attendez, on peut appeler Vincent Bolloré, ça peut s'arranger, il n'y a pas de souci.
Ouais, tu connais bien Ardisson, toi, tu peux faire virer tout le monde.
N'en parlons pas. Non, Ardisson, il voulait carrément nous piquer notre horaire, cette enfoirée.
La tranche horaire.
Ils l'ont mis sur C8, il est très bien là-bas.
Quel blagueur, c'est tiré.
Mais alors, vous l'avez vécu combien de fois la rumeur? Parce que on apprend toujours avant par les couloirs, le qu'en dira-t-on, avant de recevoir la lettre, la rumeur de Groland va sauter cette année.
Ah mais nous, on sait qu'un jour année, on va sauter, mais bon, nous, enfin, on s'en fout. Donc,
Non, mais faut, à chaque rentrée, on ne sait pas où... Tu connais le principe.
On est sur un siège éjectable global, mais ça fait 25 ans que c'est comme ça.
Mais j'adore l'idée de la malédiction, c'est-à-dire le premier qui dit « je supprime cette boule, trop tard, c'était mort, il ne fallait pas commencer à faire par je supprime Groland.
On a eu Dominique Farrugia comme ça, on a passé un paquet.
C'est étonnant que.
Messier aussi,
Farrugia.
Non, c'est étonnant.
Messier, là, on n'y a pas cru parce que franchement, il nous avait mis en crypté, enfin, c'était foutu. Normalement, on était viré l'année d'après. Et un patron, ça se vire pas comme ça, mais là, c'est carrément le conseil de surveillance de Vivendi qui a viré ce mec-là. Donc, il y a aussi des Grolandais chez Vivendi, c'est ça aussi.
D'ailleurs,
faut vraiment se méfier
c'est
parce que.
Franchement, les
Grolandais, c'est une armée de l'ombre inattendue. C'est-à-dire, on a fait par exemple un film qui s'appelle Le Grand Soir, où on tape quand même sur les groupes de distribution français. On a demandé aux 5 groupes de distribution, Auchan, Carrefour, tout le monde, ils ont tous refusé, enthousiastes, de nous laisser tourner à l'intérieur de leur magasin. Mais il s'est trouvé un Grolandais à la tête de Carrefour pour dire, mais non, mais moi j'aime beaucoup cette émission.
Le lobby juif et le lobby homosexuel envient le lobby Grolandais.
Question sur Benoît.
La promo se passait très bien.
Elle devient excellente.
Qu'est-ce que Benoît Delépine a fait le jour même de la sortie de Michael Cull contre la World Company quand il a su à la première séance de 11h que le film ne marcherait pas vraiment.
Il a été au cinéma, il a acheté plein de places.
Non.
Il a envoyé toute sa famille.
Il a été
au
voir
cinéma.
Son mouton préféré.
Alors, il a été voir.
Un sorcier, un voyant.
Monsieur a des références. Non.
Un égyptien.
Non, il peut-être, été... mais c'est surtout une. Il a été se mettre à côté d'une personne et.
À côté de la
pierre. À partager un moment avec lui.
Ah, le guichetier du cinéma pour non. dire on est voir. Non.
C'était quoi le film?
C'est une histoire de boire un coup, mais.
Avec le distributeur. Ça,
non, c'est une notion de loose. Non, c'est la loose, quoi. Il sait que le film va pas marcher.
Il a bu un verre avec Morandini.
Avec un mec dans la rue qu'il a trouvé devant, SDF dans la rue.
Ouais. Exactement.
Ah ouais, mais c'est, alors c'est marrant parce que c'était il y a 20 ans exactement. Et ça, je me souviendrai quand même toute ma vie parce que je rentre dans une émission, je sais plus si c'était à France Inter, mais dans une grande radio nationale. Donc déjà, je me prends les grosses critiques dans la gueule. Bon, c'était dur.
C'était violent.
Dans les journaux, c'était un peu violent, ouais, mais ouais. Faut quand même assurer toute la journée avec les critiques du matin. Et puis là, j'ai un coup de fil de mon producteur à l'époque, qui s'appelle Charles Gosseau, qui me dit, parce qu'il y a les premières entrées du matin, etc. Il me dit tout simplement, je lui dis alors Charles, il me dit, c'est mort. Punaise. Et il faut assurer toute une émission ouais. comme
pourtant,
celle-ci.
Pourtant, avec... si je peux me permettre, Charles, il est plutôt quelqu'un.
Bah, il est plutôt optimiste, donc ça voulait dire.
Non, il est plutôt délicat. Non, c'est pas. Il fait pas partie des. C'est pas partie des violents.
Non. Mais il m'a dit ça violent. Tellement il était au fond du trou.
C'est ça. Là, vous avez eu le coup de fil ou pas là?
Bah, écoute, mais ça se joue à rien. À quelques places près, t'es archi vivant ou t'es complètement mort. Et donc, et là, on a l'air plutôt vivant. Mais, mais donc, en plus, comme moi, je faisais les guignols et tout, il y avait des humoristes comme vous à la table, donc ils se sont fait un plaisir à me massacrer. Puisque bah, c'est normal, c'est un peu la règle.
Retour de manivelle.
Ouais, retour de manivelle, aïe, aïe. Et donc je n'ai trouvé refuge, parce qu'il y a ce dîner où il y a les entrées qui tombent, les chiffres qui tombent, alors c'était de plus en plus mauvais.
Le mercredi soir.
C'était vraiment mort pour
et
le
alors
coup.
Là, tu fais quoi? Tu traverses
la
rue?
Je sais pas, je tombe sur un pote, enfin pas un pote, mais un vrai clochard black dans la rue, et là on se saoule la gueule. Et donc j'étais, mais je voyais ressortir tous les
distributeurs, c'est un documentaire, c'est pas une fiction.
Etc. Ils sortaient tous du café très chic aux Champs-Élysées, puis ils étaient là, ils me regardaient, mais comme une merde que j'étais d'ailleurs, et j'étais là avec mon nouveau pote, enfin mon au secours. J'ai mis du mal quand même à m'en remettre.
Je vois, tu cuves encore aujourd'hui. À ses débuts pour travailler, Gus Kerven, à ses débuts pour travailler à télé, quelle technique efficace a-t-il employé pour être embauché?
La violence.
Ouais, sur ses.
Fournissait de la drogue.
Concurrent, non. Il restait là, il se tapait l'incruste, il bougeait pas, jusqu'à ce qu'on le prenne.
Non.
Pour quel métier?
Quelle technique il a fait pour entrer
une
à la télé?
Une technique connue pour trouver un boulot.
Il changeait son CV, il grossissait son CV.
Voilà, bah, un truc que tout le monde fait en fait.
Il a triché.
Ouais, il a trafiqué son CV.
Ouais, j'ai fait un faux CV, ouais, parce qu'il fallait. Enfin, j'avais jamais écrit de sketch de ma vie, et puis il cherchait un auteur donc pour écrire les sketchs. C'était Yvan Le Bolloc et Bruno Solo.
Sans dévoiler tout de notre vie commune, puisqu'on s'est croisés, on s'est parlé. Ouais. Tu cherchais du boulot, t'es venu me voir. C'était pas à ce moment-là, c'était avant. Parce que nous, on s'était
avant,
vu après Solo.
Non, ouais, c'était avant. D'accord, avant okay. Ça. Ouais, c'est mon premier boulot à la télé en fait.
C'est quoi, c'était le top 50 avec Solo et Le Bolloc?
C'était le top 50. Ouais, ouais. Ils cherchaient un auteur et j'étais en concurrence avec un auteur de Jean Rocasse et j'ai gagné. Donc
il y a une justice. Surtout Jean Rocasse a des auteurs.
c'est ça, des faux auteurs aussi avec des faux CV.
Si le mec a pipoté son CV pour dire je suis auteur de Jean Rocasse et c'est une connerie, c'est quand même amusant.
Et je vais quand même vous dire. Je vais quand même vous dire pourquoi à l'époque avec Moustique, pourquoi on a pris Gus au moment où on a fait le vintage vin, du vin du H et du vin. On cherchait donc de nouveaux auteurs et lui, il n'avait jamais fait de télé. Enfin,
très peu.
Et très peu, quoi. Mais il nous a montré un sketch. Mais on s'est à pleurer de rire, quoi. Il déboulait, non, tenez-vous bien, il déboulait chez les gens qui avaient gagné dans le jeu de Patrick Sabatier.
Ouais. Patrick Sabatier. Porte-bonheur.
Mais genre, des années plus tard, il déboulait chez eux dans leur pavillon pour demander le lot parce que. Il fallait rendre le lot, quoi. Non mais c'est dingue.
Ce qui est pas loin de la vérité.
Parce que
vu Sabatier
était dans la merde, donc je disais, ben, je viens récupérer les cadeaux.
C'est bon. Mais malheureusement, il y a des histoires extrêmement tristes sur ces cadeaux de porte-bonheur. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Des accidents ménagers, des choses comme ça, des cuisines.
Pas loin. C'est-à-dire que ils avaient offert. Il y avait un boulanger qui était quelqu'un d'adorable, extrêmement gentil, qui faisait le pain d'un village.
En général, le boulanger fait le pain. Ouais.
Non, le pain d'un petit village, mais.
T'en as gué l'info là.
C'est toi, Daniel.
Au moment de la fermeture des autres boulangeries des autres villages, il allait livrer le pain aux autres villages pour être sympa. Donc bref, il avait été, comment on appelle ça, préempté par tous ces villages en disant, Patrick Sabatier, il faut vraiment que vous fassiez un cadeau à ce monsieur. Donc, l'émission Porte-Bonheur déboule, surprise, la caméra en direct, au moment où le gars est en train de faire le pain dans la nuit, et tout ça. Ensuite, voilà, vous avez gagné, on vous offre un four qui va vous permettre de fabriquer votre pain, on vous offre une camionnette pour livrer, tout ça, enfin, des cadeaux de dingue, sauf que le pain fabriqué dans le four est moderne et plus du tout dans le four à bois n'avait plus le même goût. Ah, ce qui fait que les mecs ont trouvé que tous les clients ont trouvé que le pain était dégueulasse et ne lui ont plus acheté le pain, je te jure. Et comme ils étaient passés à la télé, ils avaient beaucoup de demandes de livraison de camions machin. C'est sa femme qui livrait avec la camionnette qui a eu malheureusement la pauvre un accident avec cette voiture. C'est-à-dire que ça a été porte-malheur à tous les
elle
niveaux.
A été incinérée dans le
non,
four.
Non,
dans le four traditionnel cette fois. Les hôtels recherchés.
Ces cendres sont dans la boîte à gants.
Donc la notion de porte-malheur existait à l'époque.
Alors, il porte la chemise de Sabatier.
À propos d'accident, lors du tournage d'I Feel Good, Benoît Delépine a eu un accident de moto. Mais dans quoi est-il rentré ?
Dans Jean du Jardin.
Dans une remorque.
Pas loin.
Dans un stand du truc Emmaüs ?
Non.
Du village, non ?
Je sais pas.
Dans quoi il est rentré ? Alors c'est quelque chose qui bouge ou qui est fixe ?
Oui.
Qui bouge, un camion, une voiture, une moto, un hélicoptère,
une maison.
Michel
Drucker. Des gens qui attendaient sur le bord de la route.
Non.
Dans un panneau stop.
Un animal.
Oui.
Une vache.
Non, on va dire.
T'as
trouvé dans
un sanglier.
Accident avec.
Un cheval. Ouais.
Un cheval sauvage
qui traversait la route.
Qu'est-ce qui était en tort?
Non, mais en plus, lui a survécu aussi, la moto et tout, mais moi, je ne sais pas voler, donc j'ai fait 20 mètres en l'air, puis je suis mal retombé. Quoi.
Aïe.
Et c'était inouï, hein, ça, franchement, je vous le conseille à tous. Hein,
et c'était où ça?
Bah, inouï, non mais pardon, il a été blessé, le cheval?
Non, mais je ne sais pas, j'ai vu tout d'un coup son corps se rapprocher à toute vitesse, et puis ça, dans mon casque, comme ça, paf, un gros rectangle marron, c'était son poil, et je sens encore même l'odeur du crin. Et j'en ai ri, quoi. Je me dis, ah tiens, une belle mort. Enfin, une belle mort.
Ah non.
Non, mais
c'était avant que vous ayez l'idée du film, sans dévoiler...
Non, c'était à la fin du tournage, mais quand même, il restait 15 jours de tournage.
Je parle du scénar du film.
Ah, non, c'était... Je ne dis rien, je ne spoil pas. Sachez, enfin, pour ceux qui vont aller voir le film, j'espère qu'ils sont très nombreux, qu'il y a une scène dans le film qui a un rapport avec un accident.
Voilà, c'est ça.
Il se trouve que les pompiers espagnols m'ont enlevé mon portefeuille pendant que j'étais à terre, dans la moitié dans le coma, et ils ont tiré la même photo que dans le film.
Mais si, c'est dingue.
Et moi j'étais là.
Il y a des signes.
Enfin, bon,
allez voir le film.
Pour comprendre les vannes de cette émission, il faut d'abord voir le film. C'est l'inverse.
Nous en parlions d'ailleurs de ce film.
On va en parler tout de suite.
Conceptuel.
Mais d'abord, qu'est-ce que Catherine Deneuve a réussi à faire boire à Gustave Kervel ?
De l'eau ?
Non.
On vous connaît bien.
J'accepte.
On va double point avec Daniel.
C'est de l'eau. Si, c'est de l'eau chaude. Ça s'appelle un thé. Parfumé à quoi?
Non, je l'ai dit. Alors, au gingembre. C'est du. Ah. Elle boit que ça, du gingembre frais qu'elle coupe, qu'elle met dans son thé. Donc j'ai été.
Et ça fait quoi?
Ça fait.
Il est bien ce film. Donc,
non, c'est bien. C'est agréable. C'est nouveau, quoi. Enfin, c'est un truc que j'avais jamais.
Et t'as arrêté
tenté.
Depuis?
Ah, j'ai arrêté tout de suite.
Ouais, c'est de l'eau croupie, c'est dégueulasse.
Alors Monique, jouée par Yolande Moreau dans votre très bon film I Feel Good, dirige une communauté Emmaüs du côté de Pau, c'est la situation en tout cas dans le film, après des années d'absence et de errance, c'est-à-dire que son frère, joué par Jean Dujardin, est resté à la maison le plus longtemps possible.
20 années sabbatiques.
Voilà, profitant de la nourriture de maman et du loyer de papa.
Et de l'argent de papa aussi.
Joué par Joël Seria.
Il n'est même pas venu à l'enterrement des parents, il est parti en thalasso, se faire une thalasso parce qu'il est dans un trip de carpe diem et il faut un, être riche, de profiter de la vie, il paye même pas sa thalasso, il se barre, et c'est comme ça que démarre le film, il se barre en peignoir et en claquette pour retourner... Pour retourner voir, on va le spécialiser thalasso, pour voir Yolande en disant, enfin sa sœur chez Emmaüs en disant, j'ai une idée géniale pour devenir riche, millionnaire. Il faut que je trouve l'idée géniale pour devenir riche et millionnaire, est-ce que tu peux m'héberger pendant quelques temps? C'est le début du film.
Très bien. C'est pas facile de résumer nos films en général parce que ça.
Non, mais là, j'ai résumé que la première minute. Faut que tu vois, Gus, il se passe plein de trucs après dans le film.
Cette idée
de dire j'ai déjà vu et je sais que tous les milliardaires, les inventeurs de Macintosh, les inventeurs de Tesla et autres ont eu une idée un jour dans leur garage et c'est comme ça qu'ils sont devenus millionnaires. Donc je me fous dans un garage et j'attends d'avoir l'idée géniale. Ce pitch-là, il vient d'où ?
Mais non, mais c'est le mirage économique actuel, c'est-à-dire tout. Enfin, plus personne a envie de réellement de travailler, mais tout le monde a envie d'avoir simplement l'idée, même à la limite, même pas de travailler après, hein, c'est d'avoir l'idée. Puis après, normalement, tout coule de source.
Mais vous le dites même textuellement dans le film, c'est pour devenir riche, il faut pas travailler, il faut faire travailler les autres.
Ben voilà, donc. Et malheureusement, ça se passe pas comme ça, quoi. Enfin, heureusement.
Ah ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de morale dans cette histoire. Et puis surtout, les comédiens qui sont vraiment des personnes qui travaillent et qui aident Emmaüs.
Bah oui, nous on tournait donc dans cette communauté Emmaüs de l'Escarpot, et justement c'est ce qu'on apprend, les compagnons travaillent beaucoup, mais ils ont aussi beaucoup d'idées. Par contre, c'est ça qui fait la force de cette Emmaüs, c'est que ils ont des projets,
il y a des ateliers,
c'est commun à tous les Emmaüs, mais eux ils vont beaucoup plus loin dans l'autonomie écologique, c'est-à-dire qu'ils ont leur ferme pour le circuit court, ils ont une épicerie où ils vendent tous les produits locaux.
On en parlera avec Germain Sarry qui est là, justement avec lequel vous avez travaillé du côté de Pau. D'abord, la première question qu'on vous a posée 25 000 fois, mais on ne peut pas faire autrement que de la poser.
Il est sympa, Jean Dujardin ?
Comment convaincre ? Non, on sait qu'il est sympa, mais le convaincre, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage entre le cinéma auquel il nous a habitués et votre
univers,
cinéma.
C'est un univers, c'est encore autre
chose. Non, mais c'est vrai qu'on l'a rencontré dans une fête, donc à Cannes, lorsqu'on a le Grand Soir a été sélectionné, on a fait une fête qui nous a définitivement grillé avec Cannes, puisque c'était avec un concert des Vampas, c'était très destroy, bon, tout le monde s'en souvient. Mais
sauf Didier lui-même. Qui...
Non, mais c'était chouette. Et à 4h du matin, effectivement, on s'est tapé dans la main en se disant on va faire un film ensemble. Mais il a fallu simplement attendre du temps, attendre qu'on ait le bon sujet pour lui, et puis. C'est aussi pour ça que Jean, je crois, ne tourne pas, enfin, il tourne deux films par an, pas plus. C'est qu'il est très exigeant sur l'écriture, il a bien raison. Et donc, le temps qu'on arrive à avoir un scénario bien ciselé, ça a pris le temps.
Mais c'est classe de tourner avec vous. Depardieu, Poulvord, Dujardin. On a l'impression que ça devient maintenant un must que d'avoir été le comédien principal d'un film de Lépine et Carême.
Non, mais je sais pas. Nous, on sait pas trop, mais on pense que les gens ils voient qu'on fait des films un peu différemment, ne serait-ce que dans la façon de filmer, puisque ce sont des plans séquences, des plans fixes. Donc au cinéma, c'est parfois un peu rébarbatif de faire champ contre champ, plan serré, plan large. Donc nous, c'est un plan et puis on passe à autre chose. Donc c'est une forme de liberté aussi pour eux. Ils redécouvrent un peu leur vérité
et de poésie aussi dans la manière.
Ouais, il y a ça, il y a tout. Et puis je sais pas, ils sentent que les tournages sont un peu différents. Dans l'ambiance déjà et dans le sujet, il y a souvent du fond quand même dans nos films.
Et c'est vrai que vous alignez vraiment une filmographie avec des comédiens qui sont des comédiens exigeants, des comédiens qui vont pas partout. Donc ça crée quand même une forme de famille. J'ai l'impression dans votre cinéma à vous, ça devient. Je pense que le prochain film que vous allez faire, il peut y avoir bataille.
Brad Pitt.
Non, il y aura pas bataille. Le prochain,
vous savez déjà.
Bah, a priori avec Brigitte Fontaine, hein, donc.
Voilà, c'est ce que je dis. On est d'accord qu'on prend pas.
On va voir. Je sais pas. Hein, on la voit tout à l'heure pour tout vous dire.
On a rendez-vous à 14h cet après-midi avec elle. On va voir.
D'autres balades restent non plus, Gus. Il y a un moment où il faut garder un peu d'intimité.
Sur l'île Saint-Louis.
Le point de départ d'I Feel Good. Alors, on peut juste quand même expliquer d'où vient le titre dans l'histoire du film. C'est l'histoire d'une. C'est le nom d'une villa.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, I Feel Good, c'était aussi à la fois pour se foutre de la gueule des Feel Good Movies, c'est-à-dire que c'est les Feel Good Movies, on a l'impression que c'est les gros trucs commerciaux, hyper cool, hyper optimistes, hyper commerciaux, quoi. Et nous, ce qui nous plaisait dans ce titre, c'était une fausse piste en fait, parce que ce titre I Feel Good, il a été choisi par notre héros en lisant le nom de la villa d'un de ses potes
qui s'appelle
I Feel Good, marqué en fer forgé.
Oui,
comme ça.
Mais sauf que il est quand même, et ça explique bien ce qui se passe dans le film, ce gars qui a réussi lui sa vie.
C'est un ancien camarade d'école.
C'est un ancien camarade d'école et qui a réussi sa vie en faisant une opération
de chirurgie plastique
pour maigrir,
plusieurs chirurgies.
Ouais, il a mis un anneau gastrique, je sais pas trop quoi, pour maigrir en tout cas. Et comme il s'est senti mieux dans sa peau et dans son enveloppe extérieure, le regard des autres a changé.
Tout s'est arrangé pour lui.
Il a réussi sa vie professionnelle, il a rencontré l'amour et donc tout va bien grâce à l'opération chirurgicale. Et de là naît l'idée. Clé.
Surtout avec il a rencontré l'amour avec une troisième dauphine de Miss.
Miss Aquitaine.
Je crois qu'il y a une des scènes les plus drôles que j'ai vues au cinéma. C'est sa femme.
C'est
qui fait des longueurs.
Non.
C'est une des scènes les plus drôles.
Dans une mini piscine. Attends, faut expliquer jusqu'au bout. Dans une mini piscine, c'est-à-dire que c'est vraiment ça. C'est une pataugeoire, quoi. C'est un pédiluve, en gros. Et la meuf, elle fait des allers-retours comme ça.
Il faut la voir.
C'est génial.
Elle doit faire 3 mètres de long. Elle fait des allers-retours.
Il y a une vanne à la Top Secret ou Abraham Zucker, Abraham Zucker, si ça fait partie de vos références cinématographiques, c'est quand elle a son écharpe de dauphine et qu'elle enlève l'écharpe, c'est la marque de bronzage, c'est-à-dire qu'elle
c'est Groland à fond.
Et à propos de bronzage, on est d'accord, il est orange, Jean Dujardin.
Mais alors c'est marrant parce que c'est lui qui a décidé là pour le coup d'être bronzé, mais c'est bien vu parce qu'effectivement, comme on
pense d'abord... Il n'est pas bronzé, il est orange.
Non mais on pense d'abord que c'est un richissime mec sorti d'un thalasso, donc il est orange à la Séguéla, quoi.
C'est ça.
Sauf que peu à peu on s'aperçoit que non, il est orange comme ça, c'est parce qu'il est toujours dehors, c'est un SDF total, il vit dans la rue, donc il y a vraiment un contraste intéressant en tout cas pour l'histoire.
Donc vous l'avez un peu amoché, il est un peu forcé,
On est déshabitués, on est déshabitués avec nos acteurs quand ils passent chez le coiffeur juste avant de tourner, mais on le fait au dernier moment avec Poulvord, on lui avait pas dit qu'on allait lui faire la crête de punk, il voulait pas le faire, il voulait avoir une perruque et tout, et puis on a dit au coiffeur, vas-y fonce quoi. Et devant lui effaré, si c'est vrai.
Vous avez pas le droit.
Mais on l'a fait.
Il est payé.
Donc il a coupé, clac, des coups de Mais c'était dingue, quoi. Il s'est retrouvé avec une crête. Mais c'est pas vrai, tu m'as pas fait ça, et tout. Bah, si. Puis après, il s'est plu comme ça, et tout allait bien. Et là, Jean, on lui a dit qu'on allait un peu lui massacrer une coupe, mais voilà.
Et le grossir un tout petit peu.
Mais ça,
il est autonome. Il est allé chez sa mère pendant 2 mois juste avant le tournage. apéro plus bien manger, quoi.
Plus confit de canard.
Voilà. Apéro, confit de canard. Et dans le film, il y a un sacré hamburger qu'il mange aussi dans la voiture.
Extraordinaire. Ça vient d'un bon resto.
Et alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le personnage qui donne l'idée au personnage de Jean Dujardin de monter cette société à Feel Good, c'est pas n'importe qui. Il y a plein de clins d'œil en fait dans votre film, parce que là,
Xavier Mathieu, qui est le syndicaliste historique des Conti, qui s'est fait virer, donc qui fait une carrière au cinéma, et on est content de l'aider à chaque fois. Enfin, il a pas besoin de ça. C'est un super acteur. Et surtout un très bon mec, donc à chaque fois, c'est un clin d'œil parce qu'il joue une espèce de parvenu.
On aime bien les contre-emplois comme ça, c'est ça.
Quand on dit Conti, pour que tout le monde comprenne, c'est Continental.
Continental, ouais, les pneus Continental.
C'est lui qui avait mené la lutte, qui avait été très médiatisé.
Qui avait saccagé la préfecture, la sous-préfecture.
Il y a aussi un auteur de bande dessinée qui appartient à la famille des Requins Marteaux. C'est très Nouvelle-Aquitaine quand même, la bande. Il y a un truc aussi du cru, quoi.
Le film a été tourné là-bas.
Non, puis Joël Seria quand même.
Joël Seria qui joue le papa.
Les galettes de Pont-Aven et comme la lune.
Puis il joue très bien, vous avez vu. C'est fou. Quoi.
Ah oui,
comment il s'emporte et tout. Il est extraordinaire.
C'est un très bon film, en tout cas. Bravo les garçons.
Merci.
Bravo,
hein,
merci. I Feel Good, ça sort aujourd'hui. Allez le voir, vous vous sentirez mieux après. Et puis évidemment, il y a plusieurs messages. Il y a la poésie du film, il y a l'histoire, il y a les vannes, il y a les situations, il y a le scénario. Et puis il y a aussi d'émotions, et puis il y a du fond. Il y a quand même beaucoup de valeurs. C'est pas qu'une...
Et sans jamais rentrer dans le pathos.
Non, c'est ça. Ouais. C'est ça, avec élégance. Ce qui peut surprendre hein, quand on voit Benoît Delépine et Gustave Carvel, mais c'est quand même le cas.
C'est une fausse image. Attends,
c'est, gratuit, c'est gratuit.
Soyez les bienvenus.
C'est pour moi, ça fait plaisir.
C'est dans ses
prix. Non, ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas.
C'est le deuxième syndrome égyptien. C'est la deuxième malédiction.
Clac, clac.
Ah, j'ai quand même une veste Hugo Boss.
Il faut lui rendre. Il faut lui rendre.
Il y a un Italien qui court torse nu là depuis tout à l'heure.
Avec 3S.
Hugo Boss avec 3S.
C'est vrai qu'on a toujours qu'un pantalon. Ça sert.
Mais enfin, le dernier, le troisième. S, c'est la taille, c'est pour ça qu'il faudrait que tu changes. Tom Villa, le film va être un succès.
Bah, je le souhaite, sincèrement. Alors, je préfère prévenir, je vais faire le connard pendant 3 minutes. Je préfère vraiment prévenir parce que Daniel, ça fait 10 ans qu'il prévient pas, il a une réputation dégueulasse. Donc voilà, bon, les choses sont faites. Alors,
c'est excellent, c'est d'une audace.
L'idée du personnage joué par Jean Dujardin dans le film, c'est gagner de l'argent, beaucoup d'argent, avec une idée simple, profiter des pauvres. Ça fait-il ta personne? Non? Non, gagner beaucoup d'argent avec une idée à la con qu'on vendra aux pauvres, c'est quand même le principe du cinéma. Bah oui, tu crois que les gens riches, ça les amuse de voir un taxi rouler très vite dans Marseille? Je ne pense pas. Hein. Ils ont d'autres choses à faire de leur week-end. Ils vont faire de la Formule 1, du rallye au Maroc, du jet ski en Corse. Bref, comme le dit si bien Jean Dujardin dans le film, le but du jeu, c'est de faire bosser les autres, c'est pas de bosser soi-même. Pourquoi les gens ils jouent au loto? Pour espérer gagner et filer tout le pognon à une association? Non, je crois pas. Ils veulent être à l'abri du besoin, avoir une femme de ménage, une piscine et changer de femme. Hein? Non, mais c'est vrai. Mais si. J'ai dit que j'allais être un connard pendant 3 minutes ou pas. Voilà, il y a un moment, faut assumer. Les gens qui disent le contraire n'ont jamais eu l'occasion de comparer la part de Nagui et la part de Daniel. Non, c'est vrai. Quitte à avoir une déco douteuse.
On habite ensemble.
Quitte à avoir une déco douteuse, autant avoir la vue sur la tour Eiffel comme Nagui que la vue sur la tour de Pise comme Daniel. La tour de Pise, c'est un kebab tunisien, italien, qui fait des calzones, des grecs et des couscous. Non, mais.
Délicieux.
On a tous envie d'avoir une idée, faire bosser les autres pendant que nous on fout rien. Regardez, Nagui, c'est pas le bon exemple parce que Nagui, il fait bosser les autres, mais lui, il bosse comme un chien. C'est vrai. J'ai perdu ma ligne claque. Non mais ça peut arriver. Non mais
t'es troublé.
Non mais c'est vrai.
Un compliment.
Non mais derrière, je veux dire, il y a quand même une vraie question de fond, un truc qui doit nous faire réfléchir à tous. Est-ce que c'est si bien que ça d'être riche? La réponse est oui. On a tous envie de rêver, de voyager. Regardez-moi mon oncle, il habite Melun, il a un cadre de New York dans son salon. Tu crois que le mec qui habite New York, il a un poster de Melun dans sa salle à manger? Non, il a une fenêtre, tout simplement.
Pourtant, ce sera hein bon.
Je sais que sur France Inter, c'est pas politiquement correct de dire qu'on aime l'argent, mais j'assume, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, j'aime pas l'argent, j'aime l'idée d'en avoir. Ça n'a rien à voir. Par exemple, moi, j'aime bien le foot, j'adore le regarder, mais j'ai aucune envie d'y jouer. Et bah, l'argent, c'est le contraire. Moi, j'aime pas le regarder, mais j'ai très envie d'y jouer. Hein, non, mais c'est vrai, mais ça va. On a tous été droite, même 5 minutes. Et le pire, c'est qu'on essaie de l'inculquer à nos enfants. C'est vrai, le Monopoly. Le Monopoly. T'as déjà vu que des adultes y jouer? Enfin, de moins de 80 ans dans un EHPAD, je veux dire. Non, mais c'est un adulte qui joue avec un enfant, le Monopoly. Sauf qu'on montre à nos enfants que dans la vie, le but, c'est de dépouiller les autres en mettant des hôtels rue de la Paix. Et bah, la vie, c'est pareil. Hein, il y a un moment où faut arrêter de tourner autour du pot. Et ceux qui disent que l'argent fait pas le bonheur, et bah, c'est juste que vous avez jamais été sur Amazon. Hein, je dis pas que ça fait le bonheur toute la vie, mais l'achat d'une sorbetière, ça peut t'occuper 2 heures. Puis si t'achètes un drone, ça peut te faire le week-end. Voilà. En attendant, je vais m'occuper de mon petit cousin qui a gagné à l'Euromillion vendredi dernier. On va tout donner à une association. C'est l'association Un cadeau pour Tom Villa et moi j'ai Amazon. Allez, bonne émission.
Merci.
Bravo.
Sur France Inter. Ça prend combien de temps de penser un film? C'est une idée, après on voit comment on brode, où on se dit, tiens, il faut, où on a envie d'écrire un film, puis surtout vous faites tout à deux. Donc,
il y a pas mal de boulot sur celui-là. Hein. Pardon, ça fait 5 ans qu'en fait.
On voit le professionnel de la radio, hein, Gus, c'est ton truc à la radio.
Ouais. Non, mais on a rencontré Germain que vous allez interviewer tout à l'heure, il y a 5 ans, et puis ensuite on a commencé à beaucoup travailler sur cette histoire. Au début, on voulait en faire une comédie musicale, on avait eu de nombreux rendez-vous avec Philippe Découfflé, etc. Ouais. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas à écrire une comédie musicale. On a mis quand même bien 2 ans pour ça. Hein. Et après, on est reparti, on a écrit une première version. Les mêmes acteurs, par contre.
Et la même idée d'histoire, la comédie musicale était aussi autour de...
À la base, c'était un peu ça, mais on était... Quand c'était une comédie musicale, on voyait plus visuellement le rêve de chacun des intervenants. Enfin, on essayait de faire des tableaux comme ça, un peu théâtraux.
Mais bon, en tout cas, I Feel Good en comédie musicale, on a déjà James Brown qui arrive immédiatement.
Voilà, il y a beaucoup de...
Au départ, on voulait prendre parce qu'il y a 7 compagnons principaux qui jouent les rôles outre Jean Dujardin et Yolande. Et en fait, on voulait prendre des acteurs connus. Il y avait Corinne Maziero, Grégory Gadebois. Enfin, on avait déjà fait le casting. Jean-François Stavenin. D'ailleurs, ils ont gardé le même prénom parce que c'était la version initiale.
Mais on s'est dit, ils ont eu ni le rôle ni le cachet, mais ouais, ils ont y a que le prénom. Ils doivent être contents en ce moment.
Mais non, mais après, on s'est dit, ça, pour crédibiliser le truc, il fallait, on voulait prendre des vrais compagnons d'Emmaüs, mais là aussi, c'était compliqué parce que on voulait pas susciter de jalousie entre eux, enfin, qui est ce problème-là. Donc,
c'est quoi le souci de mettre du vrai dans vos films?
Bah, je sais pas, c'est le...
Ça, nous, c'est récurrent, quand même.
Mais nous,
c'est...
ça nous plaît aussi pour le tournage en lui-même, tu vois. C'est...
Vous pensez que c'est la sincérité passe par la présence
franchement, oui, même si parfois ça joue moins bien. C'est comme dans Groland, en fait. C'est-à-dire que tous les acteurs qu'on prend sont pas forcément des professionnels. Et même s'ils jouent un peu moins bien, il y a toujours dans le... Je sais pas, dans le regard, dans le truc, dans la coupe rose, par exemple, il y a toujours un truc qui fait...
Enfin, on aime ça bien, coûte tellement cher en maquillage.
Oui, autant le prendre sur...
Dessiner veine par veine, surtout, les...
Ah ouais, voilà.
Non, mais c'est vrai. Les vignobles, c'est pas facile.
Mais tu vois, même mettre Jean Dujardin dans un vrai... Enfin, je sais pas, pour nous aussi, c'est une expérience, pour lui aussi, et c'est une expérience de vie incroyable.
Ah, quoi, c'est une réussite. Et puis à propos de musique, en tout cas, vous n'êtes pas passé à côté d'une bonne musique de film.
Je me sens bien, je le savais, que j'aurais une bonne idée. Je le savais que ça viendrait, comment j'ai fait, comment j'ai fait. Je suis malin, je m'impressionne, au CAC 40, moi je cartonne. Des résultats en cacahuète, comme au début du Mr. Bigel. J'ai un projet fantastique.
Moussiakim, on va dire les deux tiers de Zebda, quoi, pour simplifier aussi. Voilà.
Ouais, c'est ça, ouais.
Deux des.
Mais vraiment, de c'était une évidence, puisqu'ils étaient allés, enfin, Zebda, plusieurs fois, justement, au festival organisé par l'Emmaüs de l'Escarpeau tous les ans. Et puis, enfin, je sais pas, ils ont le bon esprit, ils ont tout de suite compris.
Motivés.
Non, mais franchement, ils ont lu le scénar et ils nous ont directement sorti ce morceau extraordinaire, quoi. Et là, on se balade avec ce morceau depuis. 7 semaines, et à chaque fois, ils arrivent, mais n'importe quel lieu, un bar, dans la rue, enfin, partout, quand ils jouent, ça part en... C'est trop marrant. Hier, on était pendant la projection au hall, t'as tout le restaurant qui dansait sur le truc, alors que, avec un mec qui dansait sur la table et tout, mais du délire, quoi.
I Feel Good, c'est aujourd'hui au cinéma, allez le voir. Monsieur Guillermo Guise est là.
Oh oui!
Ça va les amigos.
Ouais.
Alors j'ai lu un article incroyable hier matin dans Le Monde, mais honnêtement je trouvais que c'était écrit à la bite et je voyais pas vraiment le journaliste voulant en venir, donc je vais pas
à
en parler
de ça. À la va-vite, vous voulez dire.
Oui, absolument. vous avez sûrement vu sur l'internet petit débit de folie. Le CCNE, en fait le Comité Consultatif National d'Éthique, préconise d'étendre à toutes les femmes, couples de lesbiennes ou femmes seules, l'accès à la PMA, la procréation médicale assistée. Et donc je voudrais vraiment vous parler de la difficulté de faire des vannes dans des phrases à deux sigles. Parce que je trouve ça vraiment long, c'est compliqué. Je dis ça parce que je les connais, les auditeurs d'Inter, ils vont me faire ouais, Ernesto, Fils du Sunshine et tout. On t'a trouvé vachement dans le factu sur la phrase avec le CCNE, même si, alors qu'une petite vanne sur la taille de Nagui, alors c'était vraiment la porte ouverte. Si c'était pour écouter des chroniques pas drôles, on retourne sur. Bref, vous êtes long à la détente en France, mais l'avis du comité d'éthique va incontestablement, je pense, dans le sens de l'histoire.
Bravo.
Même si bon. Je trouve qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup pour les femmes, quoi. Non? C'est beaucoup pour les femmes. Ouais, heureusement, dans cette émission, on essaie tant bien que mal de garder un équilibre pré-Weinstein.
Ouais. T'inquiète pas.
6-1 quand même autour de cette table. C'est du Djokovic, Nathalie Dechy, quoi. Vraiment, il y a un truc, zéro pitié. Ça va, Leïla?
Ça va très
ça
bien.
Ça vous fait quoi d'être dans un bastion de la résistance? Et sans poppers, en plus, ça va vous faire tellement curieux.
Voilà, c'est ça qui m'embête.
Ouais, vraiment. Ceci dit, que la société française rattrape son retard, je crois que c'est vraiment une joyeuse nouvelle, même si bon. Je trouve que dans l'élan, on aurait pu ouvrir l'accès à la PMA à d'autres catégories de population, quoi. Notamment aux trentenaires belges un peu férus d'élocution qui chroniquent sur des radios prétendument communistes. C'est vrai, pour moi, biologiquement, c'est tordu de faire un enfant seul. Enfin, en ce moment, j'ai pas d'utérus. J'ai des chouettes organes et tout. Hein, j'ai
en super. Ce
non, mais j'ai un foie, c'est pas un foie, c'est un phénix. Quoi. Chaque lundi, René et tout, je lui fais ça va, toi? Il me dit, ouais, moi aussi, je suis premier étonné et tout. Pour faire un enfant. Et ça, c'est l'injustice pour faire un enfant. Et ça, c'est l'injustice fondamentale, finalement, qui frappe chaque homme depuis la première de Vivement Dimanche. Pour faire un enfant, un homme,
il faut qu'il trouve la bonne, quoi. Une femme, il faut qu'elle trouve du sperme. Ouais, il y a quand même une grosse différence dans l'équation. Mais c'est vrai, quelque part. Et je le dis, j'aime pas dire sperme sur France Inter, mais je vois pas en quoi dire la jute, ça nous aurait tiré de l'avenir de la vulgarité. Moi, j'ai toujours vraiment rêvé, quelque part, d'avoir un enfant seul, parce que j'étais élevé par un père seul, en fait. Vraiment, ma mère était sympa et tout, mais elle était pas contre un petit pinot noir à 7h30 du matin. Donc, quand je suis né, elle voulait appeler Philippe en hommage à Philippe Léotard, tu vois. Donc, niveau picole, je crois qu'elle, si elle m'avait vu à côté de Gustave, non, elle serait tellement fière. Vraiment.
Cette réputation.
Même si bon, mon père, c'était un parent seul, quoi. Il a tout donné pour moi, Mais honnêtement, on avait une hygiène.
T'es en train de crever.
Côté, franchement, Daniel Morin, c'est Stéphane Bern, quoi. Vraiment, il y a un truc sale chez nous, c'est pas quand il y avait des insectes, c'est quand les insectes tenaient pas le coup, quoi. Vraiment, il y a un truc. Ça l'énervait, mon père. Il disait, écoute, si madame Lablotte n'est pas capable de vivre ici, elle a qu'à aller retourner dans la forêt. Hein. Voilà,
c'est vrai. Il paraît comme ça.
Ouais. J'étais heureux avec mon père parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Regardez où j'en suis aujourd'hui, ouais. Là, quelque part. En bout de table, exclu. Voilà, qui a besoin vraiment du respect.
Je suis à l'autre bout, mon amour.
Je suis la preuve qu'un enfant ne doit pas forcément être le projet de deux individus pour être équilibré. Regardez Hitler, par exemple. Il a deux parents. Voilà, Hitler qui se retourne dans sa tombe, je fais putain, encore moi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous les humoristes, vous n'avez pas d'autre corde. Bref, donc. Non, je dis juste que si la mère d'Hitler l'avait eu en PMA, peut-être qu'on en parlerait que dans le monde de l'art aujourd'hui. Quelqu'un dit putain, ouais, Hitler, je le trouve quand même vachement surcoté. Je trouve qu'à mettre 100 000 balles sur une de ses toiles pré-disco. Enfin, tu vois, il y avait un truc vraiment. C'est différent, quoi. Je pense qu'au niveau gamin, il faudrait vraiment qu'on soit tolérant, qu'on soit juste et qu'on soit créatif. Allez, bonne émission, les amis.
Merci, bravo, bien.
Bravo. La bande originale.
Justement, la bande originale force, de Benoît, ouais. De Lépine et
moins que nous, mais quand même.
Gustave Kerbel.
Mais Hitler, c'est payant. Hein.
Oh, ça s'appelle quoi? C'est le point Godwin, c'est ça? Quand,
ouais. Godwin,
ah, oui.
Pour nous aussi. Hein.
La vanne ultime. En 98, vous écoutiez, ou de moins Benoît de Lépine écoutait.
La mer roulée, c'est galère. Allongeait une misère.
Enfin, j'ai dit Benoît. Qui a choisi d'ailleurs? C'est Gus, c'est Benoît qui a choisi.
Ce titre. Bah, tous les deux.
Tous les deux.
On a choisi tous les deux.
Playlist commune.
Mais bon, c'est Benoît qui a connu Christophe avant moi.
C'est un gros, ouais. Je suis sentimental.
Attention, au refrain.
Je suis sentimental. Tellement sentimental.
Tu vas trop vite, Gus.
Ouais, un chanteur.
Et 98, c'est l'année de la rencontre. Votre rencontre à tous les deux. Je crois que c'était dans une fête arrosée à Cannes.
Encore?
Non.
Si je vous raconte, vous.
Bah ben, oui. Enfin, bah si, c'est le but.
Non, on s'est d'abord salué une année, puis après on s'est revu l'année d'après.
Ouais.
Mais là, ouais, ça a été un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a tellement fait les cons qu'ensuite il a failli se noyer dans un verre de pastis géant, qui était un verre publicitaire de 4 mètres de haut avec du faux pastis à l'intérieur. Je lui ai fait la courte, il a plongé dans le verre, et en fait, on le voyait, il aurait pu mourir d'ailleurs, c'était le premier.
J'étais premiers. Habillé, quoi, avec les vêtements.
Et on le voyait
en train de couler dans le pastis, comme ça.
Une belle mort, mais bon,
jeune, hein. Ça commençait bien, quoi. Donc on l'a sorti de là, mais
c'est
ça.
Pas, c'est pas une mort jeune, c'est une mort jaune.
Voilà,
ouais, monsieur.
Il est mort jaune. On l'a sorti de là, mais en fait, ça fait plein de courjus, la fête s'est arrêtée, enfin, une catastrophe. Ça commençait très fort.
Oui, à Cannes, vous êtes vraiment des chats noirs.
C'est pour ça qu'ils hésitent maintenant, quand même.
Oui, largement. Et à quel moment vous vous êtes dit on s'est trouvé, parce que ça ressemble un peu à ça, votre histoire, finalement?
Bah non, mais c'est, on a l'air de rien, mais on travaille aussi, donc on doit écrire plein de choses pour Groland, pour les films, mais ouais, c'est à force d'écrire ensemble des sketchs, des séries de sketchs, etc. À un moment, on s'est dit pourquoi pas écrire un truc un peu plus long, puisqu'on s'amuse bien.
Ouais, c'est en gros, c'est quoi? C'est l'un et le modérateur de l'autre. Non, enfin, comment ça s'organise?
Malheureusement, il n'y a aucun modérateur.
Moi, ce que j'aimerais,
c'est foutu, quoi. C'est perdu. Vous êtes complètement perdus, les deux.
On n'habitait qu'une seule fois ensemble, mais franchement, non, c'était.
Vous avez vécu ensemble? Vous avez vécu ensemble?
Pendant un an, c'était.
Alors? Un an, c'était dingue. Enfin, on ramenait des trucs, on s'en rappelle.
Non.
Je sais pas. Dans la rue, quoi.
Ouais. Lui, à chaque fois, moi, je rentrais plus tôt et il ramenait toujours des trucs trouvés dans la rue. Genre il voulait un soir construire un traîneau, je me rappelle, avec des barres de fer qu'il avait trouvé dans la dans la rue comme ça, donc ça faisait glang 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 dans l'escalier.
Quand vous parlez de on a envie de raconter des histoires dont on rêve et on travaille, et c'est vrai qu'au-delà de tout ce côté très libertin et alcoolo, il y a énormément de boulot.
On a freiné, un peu. Ouais.
Pourtant, vous êtes sûrement les producteurs les plus libres de la télévision en France. Donc, ce côté, on va faire un film pour pouvoir enfin dire ce qu'on a envie de dire, ça marche pas, puisque vous dites tout le temps ce que vous voulez et vous filmez exactement ce que vous voulez. Il y a zéro censure dans votre travail.
Ouais, non, il y a zéro censure, mais pour faire un film, c'est différent, c'est un autre milieu. Et là, grâce aux Belges, parce qu'on a commencé avec un producteur belge qui nous a donné toute liberté aussi pour faire notre premier film, on s'est lancé dans cette histoire, quoi.
Oui, mais tu me dis pas pourquoi faire un film.
Mais non, parce qu'en fait, le sketch, il faut de l'humour immédiat.
Oui, et le temps est différent.
Et là, on a le temps, on est quand même, on a un cœur qui bat, hein, malgré nos. Et on est bon, on peut mettre plus de poésie, d'émotion, on a les temps, on a les silences, parce que notre premier film est quasiment sans parole. Ça s'appelait Altra, et voilà, c'est une autre façon de bosser, où tu peux exprimer un peu plus de choses.
C'est des moments de vérité, mais composés de façon singulière. Voilà.
Belle formule. En 2004, justement, Altra arrive, et vous écoutiez. Déjà avant face.
Tac, tac.
Jusqu'à Pâques.
Alors Altra, pour rappeler l'histoire, c'est un road movie en fauteuil roulant. Et c'est deux personnes handicapées qui vont de Picardie en Finlande. Avec un Belge. En gros, c'est un peu... Voilà,
pour vous dire, le morceau est vraiment intéressant, parce que c'était donc avec notre producteur belge Vincent Taviette. Dans une fête, on lui dit « ça y est, on a... » parce qu'il n'arrêtait pas de nous refuser nos idées. On lui dit « on a une bonne idée, hein, un road movie en chaise roulante. » D'accord, vous travaillez, rendez-vous dans 2 mois avec un scénario, moi je ramène l'argent. Donc 2 mois plus tard, avec Gus, on écrit le scénario quand même, et on avait rendez-vous pour tourner dans le clip de Vampas, ce D'accord. clip-là, hein, celui-là. Ouais, ouais. Et on devait jouer des
voir,
espèces
vous pouvez
de...
nous voir, allez vous voir sur YouTube, on nous voit.
Et on devait jouer des mafiosos en train de patauger dans les billets de banque, etc. Donc on dit à Vincent Tavier, notre producteur belge, voilà, viens avec nous, on signera le contrat pendant le tournage du clip. Et lui, il arrive, mais c'est dingue, il avait trouvé 150 000 euros près d'un notaire flamand. Et nous, on avait notre scénario. Donc on était avec ces deux, lui, son chèque de 150 000 euros, nous, le scénario, et plein de faux billets russes, enfin, tout en tournant. Et on signe les contrats pendant la scène, quoi. Donc c'était quand même délire.
Donc vous avez la preuve et tout.
Ah ouais, bah, elle est filmée.
Il est super, ce clip, d'ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a Guillaume Depardieu. Ouais. Enfin, il y a toute une série de
guests. Mais 150 000 euros, ça suffit pas pour faire un film.
Si, parce qu'il n'y avait personne de payer, quoi. C'était que pour la bouffe et l'essence, quoi.
Et la prescription,
c'est ça, on a le droit en Belgique, on a encore le droit de faire des choses.
Non, il a récupéré son pognon, le notaire.
Il y a quand même Benoît Poulvorde, il y a Aki Kaurismäki. Ouais, comment vous arrivez à les convaincre, notamment ces deux-là,
Pierre Karl, Noël Godin.
À l'époque, c'est pareil. Première scène qu'on tourne, c'est la première scène qu'on tourne au cinéma, tous les deux en tant que réalisateurs. Déjà, on y croyait à peine. Mmh. Mais bon, on la tourne. Donc, on se dit, Benoît, le seul moyen de la voir dans le film, c'est de le faire tourner à côté de chez lui, parce que bien sûr, personne n'était payé, même pas lui. Donc, on va donc à Namur, parce qu'il y avait on se débrouille pour écrire une scène qui se passe pendant le motocross de Namur. Et on dit à Benoît, on lui dit, voilà, mais on n'a même pas d'habilleuse, donc mets tes fringues les plus ridicules possibles pour venir tourner demain matin. Il vient avec sa copine, il arrive sur le terrain de motocross, il tourne la scène que vous avez vue. Et après, bon, nous, c'est déjà fini, il fallait déjà faire d'autres... Et puis, il me dit, mais comment je rentre chez moi? Bah, écoute, tu te démerdes. Il est rentré chez lui, mais à pied, quoi. Il avait au moins 10 bornes à faire. Non. Putain, 10 bornes dans un short américain ridicule. Il a pesté, il nous en voulait, avec tout le monde. Il est hyper connu, là-bas. Donc, tout le monde se foutait de sa gueule. Et
tout. Pour vrai, il est masochiste à revenir chez vous, quoi.
Bam,
la crête.
À la fois, c'était un des rares acteurs connus du film, et on l'a mis de dos, donc on le voit pas du tout. Mais ce qui est génial avec les Belges, c'est qu'il a reçu chez lui un jour, genre à la sortie du film, le prix du meilleur acteur de dos, quand même. Il a reçu une statuette chez lui, pour prendre.
C'est génial. en 2010, vous écoutiez Les Garçons Bouchers.
Ah, j'adore.
La bière, qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la bière?
Il faut voir le clip, hein. Il y a un clip sur YouTube, ils ont fait une tournée, une vidéo à France 3, je sais pas quoi, les garçons.
On rappelle quand même, est-ce qu'on peut rappeler dans cette émission que l'alcool est mauvais pour la santé?
Oui, bien sûr, hein.
Et qu'il faut boire avec modération.
La preuve vivante,
bien sûr, mais la bière, c'est pas de l'alcool. Hein.
C'est ça.
Ça compte pas, quoi.
Daniel, c'est toi qui souffles de réplique ou...
Non, non, mais honnêtement, il y a des moments où vous vous inquiétez de votre santé ou pas?
Ouais, un peu, mais non, on fait gaffe. Hein.
Vous avez ralenti là ou pas?
Non, mais là, c'est fini. Hein. Là, on parle de l'ancien temps, hein, ouais. De l'ancien monde. Hein.
Moi, je les vois de près, je les trouve mieux conservés que je pensais.
Ouais, ouais,
alors, l'alcool, ça conserve quand tu es dedans, oui, c'est ça. Mais c'est l'inverse. Non,
mais on est dans le nouveau monde. Là,
il a arrêté de tomber dans des verres de plastique, c'est fini ce temps-là.
C'est des histoires de jeunesse.
C'est des histoires de mammouth à ce moment-là.
Ouais, là, non, c'était le grand soir là pour les garçons bouchers.
Ah,
c'était on l'a mis dans une scène où ils vont tous les deux en punk dans un mariage.
Boulevard Dupontel. Là, c'est pareil, c'est un duo.
En bagarre générale et tout.
Ouais, ça nous faisait plaisir cette tournée de bagarre générale. C'est un grand fantasme.
Il y a qu'une prise dans ces cas-là.
Dans Altra, on devait se bagarrer tous les deux au début du film, mais nous, on n'avait pas les moyens, comme je vous ai dit, il n'y a que les 150 000 euros, donc on n'a pas les moyens de faire des effets spéciaux, pas les moyens d'avoir de cascadeurs, donc on se retrouve tous les deux dans la campagne, devant une machine agricole, on se dit, bon, maintenant, il faut se battre, mais on déconne pas, on se bat vraiment, et puis on fait qu'une prise. Et donc, on se tape dessus, et il me pète une côte, quoi. Donc, c'est pour ça que je me retrouve en fauteuil roulant électrique, parce que je pouvais plus.
Et dans Mammouth, il y a Gérard Depardieu, qu'on a un peu évoqué. Je crois que c'est lequel d'entre vous qui a rêvé de Gérard Depardieu sur une mobylette? Parce que ça, c'est aussi.
C'est pas une mobylette. Non, non, moi, c'était vraiment sur la Mammouth. Je suis fan de moto.
Mais à la fin,
moto,
il termine sur une mobylette.
Mais, à la fin, il finit sur une mobylette. Mais la Mammouth, c'est vraiment.
C'est vous qui avez rêvé de lui?
Un type de moto très particulier. Non, il y en a eu que quelques.
Est-ce que c'était un rêve?
Ah, bah ouais. Non, mais moi, mon rêve, c'était pas du tout Gérard Depardieu, c'était la Mammouth, en fait. Je me suis dit, c'est la seule chance que de ma vie que j'ai de voir une Mammouth, c'est de foutre Depardieu dessus dans un film. Quoi.
Et là, il y a déjà Yolande Moreau.
Simples,
aussi.
Hein.
Et là, il y a déjà Yolande Moreau aussi.
Ah, bah Yolande, heureusement, elle est toujours là.
C'est quoi? C'est une mascotte? C'est devenu une mascotte avec le temps ou pas?
Ouais, franchement, non, mais je sais pas, elle est tellement, enfin, vous la connaissez, mais c'est...
Elle joue tellement bien.
Il y a Benoît qui rit, là.
Parce qu'elle le raconte aujourd'hui dans un journal, mais c'était quand même trop drôle, parce que sur Mammouth, à un moment, elle refuse de tourner avec nous, parce qu'elle trouvait que le rôle était trop pour les femmes, ça faisait un peu les mémères au foyer, quoi. Elle dit, non, mais moi, attendez. Donc, nous, on a fait vraiment un truc de salaud, on était dans un bar avec Depardieu, avec qui on s'entendait bien, quoi. Et on dit à Gérard, bah, appelle-la... Est-ce que tu peux l'appeler, quoi, pour...
La convaincre.
Donc, c'est quand même, il prend son téléphone et il appelle Yolande pour la féliciter, la remercier de tourner dans le film, etc.
Alors qu'elle avait refusé.
Et elle est tellement gentille. Mais oui, bien sûr, elle n'a jamais osé dire non.
C'est dégueulasse. C'est de la manipulation.
C'est salaud, mais bon. Et ça a marché.
En tout cas, elle vous en veut pas puisqu'elle est à nouveau dans ce très bon film I Feel Good qui sort aujourd'hui avec Jean Dujardin et Yolande Moreau et donc des comédiens que vous connaissez bien, Germain Sarry. Merci d'être à ce micro, bienvenue.
Merci.
En tout cas,
merci.
Vous êtes fondateur et responsable de la communauté Emmaüs Lescar à Pau. On rappelle la naissance d'Emmaüs, comment ça s'est passé?
Le mouvement d'Emmaüs qui est né dans les années, surtout le fameux appel 1954 par l'abbé Pierre. Mmh. Et à partir de là, le mouvement a pris une ampleur nationale et internationale, puisque le mouvement est implanté dans plus de 36 pays du monde. Et en France, c'est très, très...
L'abbé Pierre avait fait un jeu et avait joué à qui tout double.
Tout à fait.
Pour gagner de l'argent, pour monter l'association. C'est parti de ça.
C'est parti de ça. Ça a été un élément parmi toutes, après son appel de 54. Mais c'est vrai qu'il avait fait aussi, c'est qu'il avait été faire la Manche dans Paris et les compagnons qui étaient avec lui à l'époque lui avaient dit stop, il faut arrêter ça. Et c'est à partir de là qu'est né le ramassage, la récupération, la bif et tout ce qui s'ensuit. Voilà comment a démarré toute la dynamique économique du mouvement d'Emmaüs.
Alors justement, ça fonctionne par des dons, mais qui sont aussi bien des dons numéraires avec argent, chèque et virement, j'imagine, et des objets qui sont donnés et pas forcément des objets dans un sale état.
Non, 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 on récupère. Surtout, ce qui est important, c'est que nous, au niveau des communautés d'Emmaüs, nous récupérons tout ce que les gens ne veulent plus. Donc, on fait un travail écologique depuis,
exact.
Depuis 1954.
C'est du recyclage avant,
bien
avant,
entendu,
avant la mode.
Bien avant la mode, entre guillemets. Donc, on est tout à fait dans cette dynamique de recyclage qui nous permet une autonomie financière, qui nous permet de développer de l'activité à travers différents ateliers et qui nous permet surtout de redonner une seconde vie à tous ces objets.
Ça concerne, j'ai penser aux vêtements, mais il y a aussi tous les objets de la vie quotidienne.
Tout ce qu'il peut y avoir dans une maison.
Électroménager,
tout ce qu'il peut y avoir chez toi. Ouais. Tout. On récupère quand on va dans les maisons et qu'on débarrasse tout. Ça va de l'insolite, ça va à l'objet d'antiquité, ça va tout ce qu'on peut trouver.
Il y a même des drones en ce moment.
Voilà.
Moi, j'ai acheté tous mes meubles chez Emmaüs. Tous les meubles, les chaises, on a acheté tout.
Comme l'anecdote, quand pour le 7 septembre, quand toute l'équipe s'est retrouvée au village Emmaüs Escarpeau pour l'avant-première du film, j'ai offert à Jean une yaourtière qui lui ramenait une yaourtière d'autrefois, parce que je l'avais entendu une émission de France Bleu Alsace, je crois, où il disait cette yaourtière qui lui rappelait sa mère, tout ça, le temps de sa mère. Et donc je lui ai amené, on récupère tout, mais c'est ça qui est extraordinaire.
Il y a des objets de collection en plus, j'imagine.
Bien sûr, il y a de tout, il y a de tout.
Est-ce qu'il vous manque, est-ce que dans les dons, vous faites par moment des appels en disant, là, on a plus besoin de vêtements pour l'hiver que de tables et de chaises qui ne sont pas spécialement utiles. Est-ce qu'il y a des demandes? Est-ce qu'il y a
des demandes précises entre les demandes précises? Non, parce que la réalité aujourd'hui, on est dans une société consumériste, une société productiviste excessive.
Non,
qui fait que...
Monsieur.
Mais non, mais tout à fait, je suis d'accord avec toi, camarade. Et la chose qui est, c'est qu'il y a cette... On a vraiment une quantité de marchandises à récupérer qui est importante, énorme. Et c'est là qu'il faut qu'on remette en cause un peu ce système productiviste, je pense.
Alors, d'un côté, il y a la société de consommation qui dérègle tout, et en même temps, de l'autre, on peut en profiter aussi de cette surconsommation avec les gens justement qui ont tellement de choses qu'ils peuvent se débarrasser du surplus et en faire des dons.
Oui, mais c'est de savoir
si
comment.
Pas le cas, si tout le monde avait vraiment sa table et sa chaise,
il
ne donnerait rien.
Oui. Non, mais là, c'est de remettre en cause toute une philosophie de vie. Là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Là, c'est d'être dans la décroissance.
C'est ça.
Et comment on s'engage dans la décroissance? Qu'est-ce que ça veut dire la décroissance? Dans lequel on est
inscrit. C'est acheter moins.
C'est consommer moins.
Ouais, c'est ça.
Et consommer avec intelligence. Je crois que là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi, bien entendu, à partir de tout ce que l'on récupère, c'est comment, avec cette autonomie financière, parce que nous, au niveau du village Emmaüs Escarpeau et toutes les communautés d'Emmaüs en France, on a une autonomie financière à 100%, on ne s'enferme pas que dans une forme de complètement être introverti, mais au contraire, interpeller, provoquer et déranger un petit peu cette société productiviste, cette société qui exclut de plus en plus de gens. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et qui enferme de plus en plus de gens dans l'inutilité, qui est un fléau de notre société d'aujourd'hui, où l'abbé Pierre le disait dans les années 80, la nouvelle pauvreté aujourd'hui qui s'enferme dans l'inutilité. Et c'est là que c'est intéressant aujourd'hui de remettre en cause cette inutilité en amenant les gens à devenir acteurs, auteur de leur propre évolution et donc la construction d'une dynamique collective. Et là, je trouve extraordinaire le film I Feel Good et l'intelligence de Benoît et de Gustave de bien montrer à travers ce film qu'il y a de l'espoir, il y a possibilité de vivre autre chose, il y a la possibilité de créer justement des alternatives dans lesquelles l'homme est au centre de toute une dynamique sociale, de toute une dynamique économique et non l'inverse. Et l'aberration et le rôle de con, entre guillemets, que joue Jean, puisqu'il le dit lui-même, mais il faut qu'aujourd'hui, on change ce système-là. Et c'est possible. Et on en voit les conséquences que ça a. Conséquences climatiques, conséquences sociales, conséquences humaines. Et moi, ce qui me fait très plaisir à travers ce film, c'est qu'il donne de l'espoir. Quand on voit aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui sont dans le désespoir, de plus en plus de jeunes qui font des TS, des tentatives de suicide, qui sont dans un mal-être, c'est là que ce film-là, j'invite les jeunes à aller le voir, de bien comprendre comment ce film interpelle, provoque, que ce système aujourd'hui nous amène droit dans le mur, alors qu'on peut vivre autre chose. Ça, c'est la force de ce film-là, qui est fait avec intelligence, avec force, avec humanité et avec humour. un humour d'une finesse à la Groslande. Moi, je leur tire le chapeau.
Et puis, c'est le collectif, peine, et c'est le collectif, en fait. C'est ça. C'est le collectif qui est
beau. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est de reconstruire le collectif et de sortir de l'individualisme dans lequel nous enferme ce système néolibéral.
Mais si on n'aime pas les gens, comment on fait?
On les supporte. On peut ne pas les aimer, mais on peut les supporter et créer avec eux, camarades.
L'accueil de toute la bande à l'Escarpot, c'est bien passé. Vous avez dû convaincre certaines personnes, parce que se retrouver comédien, s'improviser comédien, être devant une caméra quand c'est pas son métier, il y a aussi peut-être la timidité, il y a aussi le sentiment de dire, mais comment on va me regarder? Est-ce qu'on va se moquer de moi ou pas?
Certes, il y en a certains qui ne veulent pas être, qui ne voulaient pas être dans l'image, mais les trois quarts, quelle fierté, quel honneur, quel plaisir, quelle reconnaissance. Mais c'est extraordinaire. Merci Benoît, merci Gustave, merci Jean, merci Yolande.
Ils ne sont pas moqués dans le film, ça aussi c'est important.
Non, mais c'est extraordinaire. Enfin, je redis, ça fait la quatrième fois que je revois le film, mais... c'est un plaisir. Hier encore, j'étais avec Gérard, avec Félicien, Magena. Mais quel plaisir, quelle fierté qu'on a. Quelle fierté qu'on a de se retrouver sur ce grand écran. Tu te rends compte des gars qui étaient dans la rue, nous qui étions dans la rue, nous qui sommes des exclus, on se retrouve sur grand écran avec des artistes comme Jean, comme Yolande. Mais tu te rends compte de la
fierté.
Pour
faire passer des messages et des valeurs.
C'est extraordinaire.
Ouais. Ce qui est le plus étonnant aussi dans cette histoire, nous, c'est qu'on s'est rendu compte que des gens qui sont quand même perçus comme des marginaux. Enfin, c'est-à-dire, c'est à l'extérieur des villes, entre l'autoroute et, ces marginaux-là qui ont raison. C'est-à-dire que nous, la majorité de la population, on a tort, on va carrément dans le mur sans se poser de questions. Et ceux qui ont raison, ils sont en périphérie des villes, comme ça, ils sont considérés.
Ce qui est dingue, c'est que non seulement on va dans le mur, si encore on y allait seul dans le mur, mais on y entraîne la planète, l'économie, l'écologie et autres. Merci pour votre sincérité et merci pour ce que vous faites.
Merci d'être venu à ce micro.
Bravo. I Feel Good sort aujourd'hui. On en reparle évidemment après les infos de midi. Et Tanguy Pastureau sera là.
Ah, c'est lui?
Mais oui, c'est Tanguy. On sait enfin qui a posé pour l'origine du monde.
Oui, c'est ce tableau qu'il est interdit d'afficher dans son bureau si vous êtes chef des ventes chez Gillette Vénus, puisqu'il montre un sexe féminin à l'état brut. Et un chercheur vient de découvrir l'identité de la dame qui a remonté ses bas devant Gustave Courbet en 1866. Un indice, il ne s'agit pas de Geneviève de Fontenay, puisqu'elle n'avait que 9 ans.
C'est la bande originale, soyez bienvenus si vous nous rejoignez avec Leila Kadour-Boudhadi.
Bonjour à tous.
Guillermo, Tanguy Pastureau, Tom Villa, Daniel Morin.
Ouais, c'est ça.
Et nos invités, Gustave Kervet et Benoît Delon.
Quelle équipe.
Incroyable.
Ah, mais c'est bien cool de vous avoir, en tout cas on est ravis, d'autant qu'on aime ce film vraiment.
C'est un vrai film politique aussi, parce que c'est pas juste un divertissement, ça va plus loin. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a des personnages qui moi m'ont touché mais tellement, notamment ce compagnon qui supporte pas les robots. Parce que finalement sa propre chute dans sa vie, elle est due au remplacement des emplois dans les entreprises par des machines. Et donc dès qu'il voit un robot, ne serait-ce qu'un aspirateur automatique, ou son grand cauchemar, en fait c'est qu'il fait un bras de fer avec un robot. Et je trouve que c'est un personnage hyper poétique qui est beaucoup plus important et beaucoup plus efficace que de grands discours, en fait.
Qui parle pas beaucoup.
Qui parle pas du tout.
Alors, celui qui joue le rôle de Grégory, il s'appelle Lou Castel, c'est un grand acteur qui a une immense carrière en Italie et qu'on a rencontré au Festival de Groslande il y a 2 ans, et vraiment, on tenait absolument à ce qu'il vienne jouer dans ce film, quoi. Et donner la réplique à Jean, c'était trop drôle. Ouais.
Quand vous choisissez vos acteurs, c'est des tronches, mais je dis ça au sens positif du terme.
Des gueules.
Ouais, des gueules, c'est ça que vous prenez. C'est plus là-dessus que vous choisissez. Tout à l'heure, vous avez dit d'ailleurs qui joue bien ou qui joue mal, même dans les sketchs, hein, peu importe. Ce qu'on veut, c'est du vrai. Ce qu'on veut, c'est du. Il faut pas que ce soit déjà vu, quoi.
Non, c'est pas sur leur physique, hein, franchement. Mais c'est. Là, on voulait que ce soit des gens de différents univers. Donc, il y a effectivement. Il y a Joe Dahan qui était un ancien de la Mano Negra qui joue un des compagnons, mais il y a aussi le cuisinier de ce qu'on appelle le catering dans les tournages, ouais. C'est-à-dire la cuisine. Ben, il joue un des compagnons aussi. Il y a un mec que j'ai rencontré il y a 25 ans qui est
mais pourquoi qui est RSA à Marseille. Quel moment tu dis au chef
qu'on les aime, quoi.
On les aime. Lui, par exemple, c'est pour le faire venir à l'hôtel pour le sortir de sa merde. Le cuisinier, parce qu'il a une bonne gueule, on dirait André Pousse, enfin ça peut être des...
Il y a un moment où vous allez pas...
Non mais c'est-à-dire
qu'en fait... La misère du monde ne vous est pas tombée sur les épaules aussi,
c'est pas ça le problème, c'est que, en fait, pour être franc, on a l'impression, mais peut-être qu'on se trompe, que un film ça dure un peu plus longtemps que nous-mêmes, et on a vraiment envie qu'il y ait le souvenir de ces gens-là, mais qu'on a adoré pour plein de raisons... qu'ils soient au moins imprimés sur la pellicule.
Ah bah, ils le sont ad vitam aeternam, ça c'est sûr.
Et voilà. Et il se trouve que c'est notre huitième film, il se trouve qu'il y en a qui ont disparu depuis.
Dont Serge La Rivière, qui vient de nous quitter, nos acteurs.
Et bon, on sait qu'ils sont dans nos films, on s'en rappellera toujours.
Gus, tu viens de dire, en rendant hommage à cet acteur qui nous a quittés, tu dis l'un de nos acteurs, comme si c'était une troupe.
Ouais, c'est plutôt l'un de nos amis en fait, parce qu'ils ont fait autre chose que nos films quand même, heureusement pour eux, mais c'est vrai qu'on a on forme une espèce de nous aussi, c'est des compagnons quoi quelque part.
C'est ça.
Et on est fiers de ça parce que on est prêt à accueillir tout le monde. Hein, d'ailleurs on est ouvert. Hein, d'ailleurs Jean Dujardin c'est un nouveau compagnon quelque part, mais.
Il s'est passé un truc entre vous d'ailleurs.
Bah, vous avez de la chance parce que là autour de la table, tous crevés. Moi, ça ne tirera pas. J'aimerais connaître ce sentiment.
Daniel est le collectif.
Non, mais c'est vrai, un chat, c'est... un chat, quoi.
C'est le cas avec Tanguy Pastureau. Donc Tanguy, nous reparlons en 2018 de Gustave Courbet.
Oui, Gustave Courbet, c'est ce peintre qui peignait des fleurs, puis il en a eu marre et s'est dit « Tiens, je vais faire un vagin. Avec un peu de bol, la dame aura une MST et le rendu sera le même. Oh » Il a donc créé cette œuvre mondialement connue qu'il a appelée « L'origine du monde ». Aujourd'hui, on l'appellerait « L'accès à la CAF ». D'un oui-oui féminin en friche. C'est quand il a vu le tableau que le mec qui apostrophait Macron a décidé de devenir horticulteur. On a l'impression, en le regardant, de voir la tête de Jean Schultes si Benalla, après avoir tapé dessus, lui avait mis la bouche à la verticale et qu'il avait perdu ses yeux. Alors cette toile est exposée au musée d'Orsay à Paris, dans une salle qu'évitent les parents quand ils sont avec leurs gosses, suite à quoi le gamin leur dit « T'inquiète papa, je suis abonné à l'Instagram de Kim Kardashian, des trucs comme ça j'en bouffe H24, j'ai déjà vu plus de raies qu'un pêcheur islandais de 80 piges ». Bref, le tableau fascine. Alors que quand on voit le radeau de la Méduse de Jéricho, on se dit juste « Purée, encore des migrants, commence à gonfler, je vais voter Marine !» Ou Wauquiez, ou Macron, personne n'en veut, à part Benoît Hamon. Hein, mais là, ce sont les migrants qui disent « Ah non, si c'est pour finir avec Hamon, c'est la loose, il est tout seul demi-tour. » Et il pagaie pour entrer le plus vite possible en Afrique, qui apparaît du coup comme une terre de promesses. Oui, l'origine du monde fascine, parce que c'est la première fois qu'on montrait un sexe de manière si crue. Courbet, c'était le Jackie et Michel de l'époque, mais tout seul. Donc depuis des années, on reluquait ce truc-là, les tétons durcis, la peau moite, en se disant « J'aurais dû faire une école d'art au lieu de mon BTS force de vente », sans savoir à qui appartenait tout ça. On se disait « Le tableau a été peint en 1866, donc à part si c'est Régine qui a posé, la personne depuis le temps est morte. » Et on vivait avec ce mystère, parce qu'on n'a pas envie de tout savoir dans la vie. Tiens, si Xavier Dupont de Ligonnès se rendait en disant « J'en peux plus de me planquer dans les bois avec une fausse barbe, tous les pervers du coin me disent « Viens voir ici ma loute en bavant », ben on serait déçu parce que c'est un mystère. On se dit, si ça se trouve, il vit avec d'autres disparus. Redouane Faïd, Ramayad, l'âme de François de Rugy quand il l'a vendue à Emmanuel Macron. Enfin, si le nom de la personne qui a lancé la pizza avec de l'ananas dessus était dévoilé, on la lyncherait devant le Domino's Pizza de Mantes-la-Jolie. J'ai essayé de prendre un lieu glauque qui avait soit ça, soit le dressing de Michel Houellebecq. Mais on ne sait pas qui c'est. Mystère, tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agissait de quelqu'un qui haïssait l'humanité. Peut-être, tiens, Hitler, hein, il a lancé la pizza à l'ananas et dans la foulée la pepperoni en se disant « ça va bien plomber les juifs ».
Bon, alors revenons à cette histoire de l'origine du monde. Comment a-t-on découvert l'identité de cette femme ?
À cause d'un spécialiste d'Alexandre Dumas qui bosse sur la correspondance entre Georges Sand, la première à avoir joué avec la notion de genre. C'était la crise du 19e, ouais. Mais sans musique, donc mieux. Et Dumas fils, hein, Junior. Or, dans une lettre, Dumas critique Courbet. Hein, c'est comme la vidéo de Nabila traitant Zemmour de clochard, mais avec des gens qui réfléchissent. Et là, il écrit « On ne peint pas de son pinceau le plus délicat, l'interview de Mademoiselle Kenyo de l'Opéra. » Alexandre Dumas n'aime pas l'origine du monde. Hein. Ça le gêne, il se dit vivement dans 200 ans que
Calzedonia fasse des petits leggings pour recouvrir tout ça. Et là, le chercheur, un certain Claude Chope, quand il va à la fête de la bière, les gens le vident, se dit, le mot interview dans une lettre de 1871, c'est étrange. C'est comme si sur les murs à Lascaux, on avait découvert les paroles d'un rap de Jules, alors que les hommes préhistoriques maîtrisaient mieux la langue française. Donc là, il analyse le mot, le regarde, le retourne, comme nous quand on choisit un melon, mais avec un mot, et il réalise qu'en fait, ce n'est pas interview qui est écrit, mais intérieur. Il faut pas se tromper. Si Nicolas de Morand dit un matin à Blanquer, voulez un café avant que je vous fasse l'intérieur, l'autre va se tailler en courant, et c'est Bourdin qui le récupérera traumatisé. Claude Chope a donc la révélation. Dumas parle de l'intérieur de Constance Quéniaud, qui était danseuse à l'opéra. Cet édifice, aujourd'hui entouré de gens qui font pipi dans Paris, tandis que des rats mangent la jambe droite d'enfants roms vendant des chiens pelés. La Bibliothèque de France confirme l'hypothèse. Ils ont des photos de Constance Quéniaud et disent, je cite, qu'elle avait de beaux sourcils noirs loués par la critique lorsqu'elle dansait. C'est-à-dire qu'elle s'est pourri la vie à faire tenir tout le poids de son corps, 50 kilos dont 10 de poils sur le bout de ses pieds, et qu'elle s'est entraînée des années pour que les gens regardent ses sourcils. Hein, à l'époque de Domenech, ça se comprenait parce qu'il n'y avait pas de foot à voir, donc on regardait ses sourcils. Mais là, quel gâchis! Ça veut dire que nos sourcils déterminent notre pilosité intime. Donc je me mets à la place de Bernard Pivot, quel enfer ce doit être! C'est un homme qu'il faut attaquer au coupe-coupe. Bref, Constance Quéniaud a posé sexe nu, Constance tout court sur un terre a montré ses seins. En fait, c'est un truc de Constance. Il faut qu'elle se dessape. Quand une Constance va chez Kiabi, elle dit, je m'en fous. Hein, dire que j'en connais aucune, Constance, ma vie est d'une tristesse, toutes ces fringues. Il y a donc un mystère dans le monde, deux moins. Il reste le Loch Ness, mais un jour, on va apprendre quoi? Qu'en fait, c'est le ver solitaire de Depardieu qui s'est barré pendant qu'il se baignait. À part à quoi tourne Jean Lassalle, on sait tout sur tout, et c'est nul.
Merci, Denis Bosquet. I feel good, c'est aujourd'hui au cinéma avec Jean Dujardin, Yolande Moreau.
Ça, Gustave.
Ouais, mais faut suivre, hein, c'est.
Ça va vite, hein.
Ah, ça.
Il
c'est,
enchaîne, hein.
C'est copieux, hein.
Ouais, ouais, ouais. Ça va vite. Et puis il est malin parce que derrière une vanne, il fait passer une idée qui est que à lui où on n'est pas d'accord, mais on rit sur son idée et on est chopé.
Ouais, exactement.
Ah, on est foutu, avec
il est fort, gars.
I feel non, good. Ouais. Justement, ce film, vous le. Est-ce qu'il est. Est-ce qu'on. Il faut le mettre dans une catégorie. Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est une. Est-ce que c'est un road movie? Est-ce que c'est une nouvelle
alors,
poésie?
C'est un succès,
ça,
déjà.
C'est notre attaché de presse qui nous a dit. Attendez, non mais vous parlez d'Emmaüs toujours, etc. Mais dites quand même que c'est une comédie.
Donc là,
c'est une comédie. Il okay. faut le dire quand même, c'est une comédie.
Et ouais, c'est une comédie, mais poétique.
On y rit.
Il y a des vrais super répliques. Ça, c'est extraordinaire.
Non, mais
c'est pas Karl Marx qui t'aidera à avoir un jacuzzi, une pergola. C'est fabuleux.
Ah, t'as retenu.
C'est vrai, bien sûr. En plus, c'est vrai à chaque fois.
C'est vrai.
C'est ça qui est étonnant.
En tout cas, c'est pas faux.
Non, c'est drôle, c'est intelligent, c'est poétique. Ça s'appelle I Feel Good. Rien à voir avec Daniel Morin.
Mais quelle ordure! Bon, cette fois, on l'a perdu, c'est sûr. Non, je ne parle pas du chroniqueur belge, Guillermo, l'enfant maudit du plat pays qui, meurtri par le manque de soleil de sa patrie au climat sinistré, a choisi un prénom qui sent bon la production massive de cocaïne, les femmes lascives et les burritos poulet guacamole. Non, lui, ça fait longtemps que la folie, le vin blanc et les maladies honteuses ont rongé son minuscule cerveau de dandy analphabète. Analphabète et trisexuel.
Tu prends cher aujourd'hui, Guillermo.
Trisexuel attiré qu'il est par les femmes, les hommes et les plantes grasses. Non. Je veux parler bien sûr de Manuel Valls, notre ancien Premier ministre qui s'est officiellement lancé dans la course à la mairie de Barcelone. Il est comme ça, Manu. Ça marche pas en France, je m'en fous, je me tire, je vais chez les Espagnols. Là-bas, ils me connaissent pas, j'ai toutes mes chances. Il a fait un peu son Guillermo qui, après avoir subi plusieurs formes d'humiliation physique et mentale de son pays, a choisi l'exil. Pour revivre, welcome to you. Son Guillermo, ou son Nagui, hein, Nagui déjà trois fois condamné à mort en Égypte pour des crimes dont l'intensité barbare ferait passer Massacre à la tronçonneuse pour un petit Walt Disney, ou Émile Louis pour l'abbé Pierre. Hein. Nagui qui en France a trouvé...
Tu pourras pas si bien dire, je suis recherché en Égypte.
Je sais, il a trouvé refuge, Nagui, et mène une vie... opulente grâce à la justice française qui n'a pas passé d'accord d'extradition avec l'Égypte, même pour les crimes les plus atroces comme celui de lécher l'oreille de sa collaboratrice comme il vient de le faire il y a deux ans.
Je viens de lui dire pourquoi j'étais recherché.
Ouais, et franchement,
c'est dégueulasse. Bon bah la France, Manuel Valls, il y croit plus. Il s'est dit, il faut que je me casse, il faut que je parte d'ici. Je vais aller en Espagne, moi. Ouais, l'Espagne, c'est bien, l'Espagne. Ah, l'Espagne, ça sent bon, je vais m'installer là-bas, je vais me faire une deuxième carrière toute neuve. Guillermo l'a fait à Paris, pourquoi pas moi à Barcelone. Terminer les goûters avec François Hollande et Julie Gayet à boire du café tiède dans les jardins de l'Élysée tout en regardant un peu partout s'il n'y a pas de trieur valeur, planqué dans un arbre avec un fusil. Moi, les soirées, que pour moi, les soirées de tapas et flamenco, à chanter Joby Joba avec le roi d'Espagne, Penelope Cruz et Julio Iglesias. Allez, c'est parti, je vais commencer par la mairie de Barcelone. Et si ça marche pas, comme dirait Nagui, il y a d'autres villes en Espagne, j'irai à Venise. Bref, il est hyper motivé. Tous les matins, il répète ses discours en compagnie de ses plus proches amis et ceux dans un espagnol impeccable. Hola! Como está la vida loca? Eh, donde está la mamá de Pedro? La isla bonita! Waka waka! Un, dos, tres, tequila! Hakuna matata! Ouais, voilà, je vous dis, il parle couramment espagnol. Mais je crois que c'est clair, hein, il est prêt. Manu, reste à savoir si les Espagnols vont le comprendre. S'ils le comprennent pas, j'espère en tout cas qu'ils vont le garder, les Espagnols, parce que nous, on le comprend pas non plus. Mais on a quand même gardé Guillermo. À demain!
Merci! Gentil, gentil à la fin.
C'est mon préféré, ou presque.
Il est gentil dans le fond. Hein.
Vous avez...
Mais dans le fond, là.
Dans le fond, avec...
vraiment dans le fond.
I Feel Good, aujourd'hui, un film à voir, une comédie, ouais, mais une comédie émouvante, intelligente, avec dans les producteurs, j'ai vu un Marc Dujardin. Est-ce de la famille de Jean?
C'est son frère.
Bien vu.
Ouais.
Ouais, c'est un des frères, ils sont quatre, hein, je crois.
Alors ça s'est passé. Marc Dujardin produisait le film, c'est comme ça que Jean Dujardin est venu ou c'est à l'inverse?
Non, bah, je sais pas, quand on s'est mis d'accord pour le projet, on s'est dit, bah, on est un peu cinglés, on choisit nos producteurs carrément. Donc voilà, on a dit, bah, lui,
c'est pas jamais les mêmes, il y a des.
Bah ouais, mais justement, on change. La fois prochaine, c'est Sylvie Piala. Là, on avait choisi Marc Dujardin. Voilà, c'est rare dans le métier, mais. On préfère faire comme ça.
C'est un choix. La liberté.
Mais c'est un très bon producteur, par contre. Génial.
Très bien.
Ah ouais, mais carrément, quand j'ai eu mon accident, il est venu chez moi, il m'a offert un jambon de pays. Enfin, vraiment.
Des béquilles, ça aurait été mieux, non? Des béquilles, ça aurait été plus simple.
Ah ouais, mais bon.
Deux jambons de pays.
Il a des petites jambes, Benoît.
Non, mais c'est un super bon. Enfin, non, il est très bon producteur.
Non, il a. Enfin,
non, vous lui dites, au producteur, vous lui dites, toi, tu vas trouver 150 000 balles chez un auteur flamand, c'est bon?
Bah,
vous
l'avez abordé comme ça? Maintenant, on est obligé de payer les gens, c'est chiant. Mais...
c'est vraiment, il y a des règles, Benoît.
Ouais, payer les gens, c'est ça qui tue le métier. Hein,
excusez-nous d'être tati.
Ce film, est-ce que un film, quand on peut avoir le sentiment que quand vous commencez à l'écrire, enfin, vous commencez à le tourner, est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous vous laissez prendre par l'improvisation? Est-ce qu'il y a des moments de grâce où vous vous dites ça?
Léa Salamé sort de ce corps.
Le monstre.
Non, mais il y a quand même quelques filtres.
Oui, Léa. Oui, donc.
Il y a quelques filtres sur l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a.
C'est quoi un filtre sur l'écriture?
C'est-à-dire que nous. Non, mais je vais vous raconter un truc, par exemple. Notre deuxième film s'appelait Avide. Donc, il faisait 20 pages. Parce que le héros, c'était, joué par Gustave, était un sourd-muet. Donc, ça faisait 20 pages. Il y avait toutes les scènes du film en 20 pages. Alors, on donnait ça au producteur, on donnait ça aux chaînes. Ils nous disaient à chaque fois, mais c'est très bien, mais écrivez-le. Mais on dit, mais putain, mais le mec est sourd-muet. On peut pas écrire ce qui se passe dans sa tête. Il y a qu'un seul producteur, encore une fois, assez fou. Notre ami Kassovitz, pour dire, ne changez pas une ligne, c'est génial. Mais bon.
Faut trouver les dingues aussi.
Mais lui, il était génial. Franchement, merci Mathieu si tu nous écoutes, parce qu'il est carrément allé voir les chaînes en disant, voilà, c'est ça, c'est 20 pages, et si vous refusez, eh ben.
Je casse la gueule.
Je fais de la boxe, et en plus, je vous donnerai plus aucun de mes films si vous ne m'aidez pas à faire celui-là. Donc, c'est grâce à lui qu'on a fait notre deuxième film. Et voilà, donc, et ensuite, on a eu un autre producteur que nous a conseillé, Gérard Depardieu.
Mais alors, quand tu parlais de filtre dans l'écriture, c'est quoi le filtre de l'écriture?
Ben non, mais c'est parce que, effectivement, le producteur a un petit peu son. Il lit le texte, les acteurs aussi, et puis après, il y a des commissions régionales, CNC, machin, donc il y a des premiers avis, donc on en tient compte un peu, donc on réécrit beaucoup.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des projets qui ont été abandonnés justement à cause de toutes ces étapes qu'il faut franchir?
Non, parce que nous, on a déjà peu d'idées, alors si en plus on abandonne les projets... On n'abandonne rien. Non.
Et comment vous faites pour conjuguer les deux? Parce que ça prend du temps, c'est chronophage d'écrire, de produire, de réaliser, de tourner un film et
d'être
toutes les semaines à la télé. Ouais.
Ben, je sais pas, on adore ça, enfin, c'est notre cam. Enfin,
on... Bah, déjà, on tourne au mois d'août quand on... pendant nos vacances, hein, déjà. Quand,
quand
même,
la télé off.
Ouais, parce qu'on a un vrai métier, hein, c'est Groland, hein, donc on peut pas tout faire non plus.
Ouais, il y a un moment, il faut bouffer. C'est ça. Voilà.
Le bah, c'est ce qui nous permet aussi d'être libre sur nos films. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, le prochain film qu'on va faire, on le fait vraiment, on revient à nos bases du début à Altra, c'est on va avoir très peu d'argent, on va tourner comme on peut
à l'arrache. Voilà.
Et pardon, ça parle de quoi? On peut savoir un petit peu avec donc, alors, ouais, Brigitte
allez,
Fontaine.
Sur celui-ci, vous avez beaucoup ri, mais sur le prochain, vous allez en chier. Ça, on vous promet vraiment.
On va pleurer.
Non, mais vous allez en baver. Enfin, il y a un moment, il faut quand même dire les choses. Donc là, c'est vous.
Ça veut dire quoi, morfler, on va en baver? Mais pourquoi ça veut dire quoi, on baver?
Mais parce que il va y avoir plein de trucs.
Dites-vous, mais c'est le monde.
C'est le monde. Hein,
non, mais j'ai compris, mais.
Bah parce que c'est
en émotion.
Là, on était très content de montrer une utopie qui fonctionne et ouais. Pour donner un peu d'énergie à tout le monde. Mais il y a aussi un moment où il faudrait quand même dire à quel point. Enfin, c'est par exemple l'Abbé Pierre. Quand on revoit les vidéos, enfin nous on l'a revu toutes les images d'archives de l'Abbé Pierre, mais il engueulait les gens, mais il avait raison, quoi. Enfin, ça y allait. Hein, quand on dit moment, c'était ouais, un funk et tout, il y a un moment, faudrait quand même dire les choses, mais vraiment. Et donc, c'est pas très drôle à entendre. Ça va, donc, ça va être un peu dur, mais avec Brigitte, on a l'impression que ça va...
C'est pas Michael Cole, c'est Michael Moore. Vous voulez dénoncer des choses?
Non, là, ça va dépasser tout.
Dégueulante, c'est un peu...
Ça va souffler.
Et ça va s'appeler comment?
Morlaix.
Morlaix, parce que...
Ah ouais, ça va bien, Brigitte Fontaine.
Elle est de Morlaix, Brigitte, donc on va tourner à Morlaix. Et la devise de Morlaix, c'est « S'ils te mordent, Morlaix ». Donc voilà.
Je crains que ça soit une vraie devise.
C'est vrai.
Okay, très
bien. Mais on sait pas encore si on va le faire. Hein, attention. Hein, mais bon,
c'est bah un, si, un... puisque tout à l'heure tu m'as dit que.
Si, mais on a rendez-vous avec elle dans une heure.
On a rendez-vous là dans 14h
sur l'île Saint-Louis.
Vous pouvez demander à Gérard Depardieu de l'appeler, peut-être pour vous dire que c'est sympa qu'elle accepte. Ça marchera pas avec Brigitte.
Avec elle, il n'y a rien qui marche comme ça.
I Feel Good, dans ce film où il n'a pas été question que vous apparaissiez. Il n'y a pas de caméo, il n'y a pas...
Benoît passe au loin avec une capuche et moi, il y a à un moment donné un pied avec une sandale et c'est moi, mais...
il y avait un panari, je m'en souviens.
C'est vrai, tout à fait. Et non, mais parce qu'en fait, on voulait qu'il n'y ait aucun acteur connu, enfin, très connu.
C'est pour ça que t'as pris Jean Dujardin.
À part eux, on voulait vraiment que ce soit ancrer ça dans une réalité.
Non, mais l'accueil est extrêmement positif dans les différents festivals où vous avez présenté le film. Quelles ont été les remarques, les commentaires qui vous ont les plus surprises?
Ce qui était drôle, c'était le grand festival qu'on a fait, ça s'appelle Locarno. Donc à Locarno, c'est sur la place centrale. Il y a 8000 personnes qui regardent un écran de 30 mètres sur 20. Donc c'est quand même un délire, quoi. Et je me souvenais plus, mais il y avait deux vannes sur la Suisse à l'intérieur, sur les paradis fiscaux et tout. Gros carton. Les Suisses ont adoré.
Mais tu te souviens plus des vannes qu'il y a dans le film?
Si, mais j'avais pas, parce que c'est en Suisse italienne, Locarno. Enfin, j'avais pas complètement, en revoyant le film, je me suis dit, ah ouais, merde, là, ça arrive
la vanne arrive.
Il y a un compte en Suisse? Non, un compte en banque.
Est-ce que les salles réagissent? Au même moment, au même endroit, ou ça dépend justement des générations, ça dépend des projections.
Notre grande surprise, franchement, on a fait beaucoup de villes en France, mais de la petite ville dans mon coin, en Charente,
ça arrive au même endroit.
Jusqu'à l'étrange festival, ça, en tout cas, ça se marre, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà bien.
Et
ouais.
À peu près de partout.
Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour Corinne Massiero, Grégory Gadebois, Jean-François Stévenin, qui se sont fait piquer leur boulot par des pauvres. C'est moche. J'espère que ça t'arrivera jamais, Nagui. Bah, Nagui, justement, désolé pour toi, qui a découvert ce matin que tu ne pouvais pas racheter une communauté Emmaüs entière. Alors, choupinou, sois Patrice, si tu veux, je te vends ma mère. Désolé pour Patrick Sabatier, dont la mémoire, la carrière, le talent, la générosité, la sincérité ont été souillés par Nagui. Franchement, heureusement qu'il est plus de ce monde, hein, parce que sinon...
Je savais que ça viendrait. Comment j'ai fait? Je suis malin, je m'impressionne. Au CAC 40, moi je cartonne. Des résultats en cacahuète, comme au début du Mr. Bigel. J'ai un projet fantastique.
Il y a Germain qui chante derrière. On en profite pour parler d'Emmaüs, oui. Du site internet. pour les dons, les garçons.
Ouais.
C'est quoi l'adresse internet d'Emmaüs?
Ah bah je...
Tu l'as ou tu l'as pas?
www.emmaüs.fr.com,
on va regarder. Oh,
bah, je pense que si tu tapes Emmaüs, tu trouves l'adresse.
Ouais, Emmaüs, oui. Directement.
Pendant qu'on donne la véritable et bonne adresse, le 1er octobre prochain, il y a un film d'Olivier Babinet dans lequel...
C'est emmaüs-france.org.
Voilà, c'est précis. Dans lequel... Benoît, vous jouez?
Non, c'est
Gust, pardon.
Il a fait un super documentaire fictionné qui s'appelait Swagger sur les jeunes de banlieue, qui était vraiment en top. Et non, moi
Et tu vas tourner aussi avec Grégory Montel et Emmanuel De Vos?
Oui, aussi, ouais. Dans un
Grégory
film
de... Magne.
Grégory Magne, mais là j'ai un petit rôle, mais c'est aussi un super bon scénario, donc je suis très heureux.
Parfait. Voilà. Merci beaucoup les garçons, bravo. Et surtout bravo pour le film. Bravo.
Merci.
Bravo.
Allez, comme quoi on peut faire des blagues et passer des messages, pas obligé de faire chialer les gens.
Daniel, là, c'est la.
Tout allait bien, finissait bien,
c'est propre.
Et là, c'est moche.
I feel good.
Demain, c'est Reda Kateb qui sera notre invité. Bonjour, Philippe Bertrand.
Bonjour, Léa.
Et voilà.
Pardon, je me suis trompé. Oh là là. Bonjour Nagui, je suis désolé. Ouais. L'éolien hier, Emmaüs aujourd'hui, je trouve que vous vous rapprochez des carnets de campagne.
On va se calmer, promis.
Oh bah non.
Ah bon, d'accord.
Continuez.
Chacun son créneau, donc tu veux pas.
Non. Demain, ça.